sait. Chronique historique, hétéroclite et tout azimique. Apparus presque en secret, dissimulés dans les cales des navires venus de l'autre bout du monde. À première vue inoffensifs, ils inspiraient pourtant la méfiance. En Europe, on les regardait comme des êtres suspects, trop nouveaux pour être dignes de confiance, entourés de rumeurs et de peurs. La pomme de terre, venue des montagnes andines, restait enfouie sous terre, comme si elle cherchait à se cacher. La tomate, éclatante et rouge, inquiétait par sa ressemblance avec des plantes toxiques et fut longtemps accusée d'être dangereuse. Le cacao, sombre et amer, donna naissance à une boisson jugée étrange, presque subversive, capable de troubler les esprits et les mœurs. Avant de s'imposer dans l'alimentation européenne, ces végétaux furent rejetés, redoutés, parfois même interdits. Longtemps associés à l'inconnu et à la peur, ils ont parcouru un chemin semé de doutes et de fantasmes. Voici leur histoire. Pomme de terre. Ce tubercule accompagne nos assiettes sous toutes ses formes, purée, frites, gratins, chips. Mais derrière cette banalité apparente se cache une histoire fascinante qui traverse les continents, les siècles et les cultures. Commençons notre voyage dans les Andes, il y a plusieurs millénaires. Ici, dans les hauts plateaux de l'actuel Pérou et de la Bolivie. Les peuples autochtones domestiquent la pomme de terre et elle devient alors rapidement un aliment central. Lorsque je dis domestique, ils ne la domptent pas, bien qu'elle soit à l'état sauvage. Ils la cultivent. Les Incas, et bien avant eux d'autres communautés, avaient développé des techniques étonnantes pour la cultiver et la conserver. Par exemple, le chuno, une pomme de terre séchée au froid qui pouvait se conserver des mois, voire des années. Un véritable trésor alimentaire dans ces régions où les conditions climatiques sont rudes et les sols pauvres. La pomme de terre est robuste, nutritive et capable de pousser là où d'autres cultures échouent. Elle accompagne la vie quotidienne, les fêtes et les rituels et devient un pilier de la survie alimentaire dans les Andes. Au XVIe siècle, le monde européen commence à découvrir l'Amérique du Sud. Les conquistadors espagnols rapportent des trésors végétaux inconnus, maïs, tomates et la pomme de terre. On estime qu'elle arrive en Espagne vers 1570. Quelques années plus tard, elle gagne l'Italie, puis les Pays-Bas et l'Angleterre. Une première mention écrite en Europe date de 1567 concernant un envoi de tubercules depuis les Canaries vers Anvers. Mais attention, la pomme de terre n'est pas immédiatement adoptée. Au début, elle est surtout vue comme une curiosité botanique. On la cultive dans les jardins de collectionneurs, dans les cours royales et auprès de médecins naturalistes fascinés par cette plante exotique venue de l'autre bout du monde. Pour les Européens, elle est étrange, mystérieuse et parfois inquiétante. Les premières réactions sont souvent marquées par la suspicion. La pomme de terre appartient à la famille des solanacées, la même famille que certaines plantes réputées toxiques. Dans certaines régions, on la croit responsable de maladies. Dans d'autres, on la réserve aux animaux. Elle n'est considérée que comme un aliment de secours, consommé uniquement en cas de famine. Même quand certains osent la goûter, l'opinion reste mitigée. On la trouve fade, peu appétissante. Denis Diderot, philosophe et encyclopédiste, la décrit ainsi. Elle ne peut être regardée comme un aliment agréable, mais elle fournit une nourriture abondante et assez saine pour ceux qui ne recherchent que de quoi vivre. Ainsi, malgré sa valeur nutritive et sa facilité de culture, elle est longtemps rejetée par le goût et par les superstitions. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'elle commence réellement à se faire une place dans nos assiettes. Les famines et les crises alimentaires obligent les populations à chercher des solutions alternatives et fiables. En France, un homme joue un rôle décisif, Antoine Augustin Parmentier. Pharmacien et agronome, il s'emploie à promouvoir ce tubercule. Il organise des dégustations à la cour de Louis XVI, écrit des mémoires et encourage sa culture. Même le roi participe à ses campagnes. On raconte que Parmentier fait garder quelques champs de nuit pour éveiller la curiosité et inciter le public à essayer le tubercule. Grâce à ces initiatives, la pomme de terre se diffuse progressivement. En Europe centrale, en Europe du Nord, où le climat est favorable, elle devient un complément précieux des céréales capable de nourrir une population croissante. Au XIXe siècle, elle est partout. Elle remplace peu à peu d'anciens légumes comme le navet et le rutabaga et devient un pilier de l'alimentation populaire. Son rendement élevé, sa robustesse et sa valeur nutritive en font un élément clé de la sécurité alimentaire. Dans certains pays comme l'Irlande, elle devient même l'aliment de base. Malheureusement, cette dépendance conduira à la tragédie de la Grande Famine lorsque le mildiou détruit les récoltes dans les années 1840. Mais dans la plupart des régions d'Europe, elle s'impose durablement. Son succès dépasse les frontières. Elle devient un aliment universel cultivé aujourd'hui sur tous les continents. Au XXe siècle, la pomme de terre ne cesse de se développer, portée par le progrès de l'agriculture et de la science. Les chercheurs sélectionnent des variétés plus résistantes aux maladies et adaptées aux différents climats. Elle devient un sujet d'étude majeur dans la lutte contre la famine et la malnutrition. Elle s'impose comme une culture stratégique, capable de produire de grandes quantités de calories sur des surfaces limitées. Elle contribue à sécuriser l'alimentation des populations, notamment dans les pays d'Europe de l'Est, en Russie et en Amérique du Nord. Mais au-delà de sa valeur nutritive, la pomme de terre conquiert aussi le monde culinaire. Chaque culture développe ses propres recettes qui feront le bonheur de millions de gourmands.
Salut Hugues.
Hello.
Salut Hugues.
Salut les gars, je suis content de vous voir. Comme je passais par ici, je pensais m'arrêter un peu, à moins que vous vouliez que... je pars.
Tu peux rester.
Pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. T'entends ? Des chips ! C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips ?
La polyvalence de ce tubercule est exceptionnelle. Il se transforme au gré des cultures et des goûts, capable de nourrir autant que de séduire par ses textures et ses saveurs. La pomme de terre devient ainsi un véritable pont culinaire entre les peuples. La pomme de terre n'est plus seulement un aliment, elle devient un symbole. Dans certains pays, elle représente la survie et la résilience face aux crises alimentaires. Elle est également entrée dans la culture populaire, dessins animés, contes, expressions et même en art. Elle inspire peintres et photographes pour sa forme simple mais universelle. Oui, la pomme de terre reste donc un aliment en constante évolution. À la fois traditionnel et moderne, agricole et gastronomique, humble tubercule et héros de la sécurité alimentaire. De ses origines millénaires dans les Andes à sa place dans nos assiettes aujourd'hui, la pomme de terre a parcouru un incroyable voyage. Elle a défié les préjugés, survécu aux famines, inspiré les scientifiques et les chefs, et su s'adapter aux besoins et aux goûts des hommes à travers les siècles.
Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as pleuré. C'est encore lui qui récidive. T'as rien mangé depuis jeudi. Ce que t'as changé, ma petite bri-bri. Oublie-le vite, oublie ce type. Viens, goûte mes frites. T'as vu ce veau? Qu'est-ce qui t'a pris? Avec Véro, on te l'avait dit. Une cigarette de Pépito. Tu t'es retrouvé sur son frigo. Oublie-le vite, oublie ce type. Viens, goûte mes frites. Drôle, t'en souviens-tu? Avant qu'il te colle toujours au cul. Moi j'en ai marre de te voir souffrir pour ce ringard en gilet de cuir. Oublie-le vite, oublie ce type. Viens, mes frites. Canal Plus, mais faut que tu le quittes. Oublie-le vite, oublie ce type. Viens, puisque je te dis que je t'invite, viens, goûte mes frites.
Kilos, là.
30, mais j'y tiens, c'est des hâtives, je dois les planter en arrivant.
Ouais, mon père aussi, dans son jardin, il en fait des hâtives.
Ah non, bon.
Regarde.
Oui, ben, je vois, quoi.
C'est le dernier.
Qu'est-ce que tu dis?
C'est notre dernier sac de pommes de terre.
Comment est-ce que tu feras pour te débrouiller toute seule quand je serai plus là? Comment ils boufferont les gosses?
C'est bien que je peux jardiner.
Pff, ça, j'ai pas de jardinage. Comment tu feras avec ces hâtives que je viens de planter?
Jolie patate? Ah, ben, n'aie pas peur, je vais pas te les prendre.
C'est des patates. J'avais une vache, des pâturages. qui me donnait du bon fromage. Fait que j'ai monté sur ma moto, j'ai roulé jusqu'au Tropico. Me suis acheté de la Samsung 4, puis j'ai remonté sur ma bécane en chantant oh! C'est bon les patates, c'est bon, dedans le béton. Bon comme bon, vélo pile qui vise dans le mille. Bon bon, puis qu'à son pigeon avec des petites crottes de fromage. Ça descend dans ton deux enfages, arrosé de sauce barbecue. C'est doux 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 dans l'estomac, croyez-moi. Oh, c'est bon les patates. Oh. En sortant de stage, Bruce Springsteen aimait ce corps, Léon Poutine. Pendant le carême, le pape Jean-Paul, en mangeant cachette d'un grand bol. Contre le général Pinochet, qui nous dit qu'on en raffolait. Après une journée de torture, il aimait sentir la friture en chantant oh, c'est bon les patates, c'est bon, donnons le béton. Bon comme quand le bourreau sort son marteau. Toc toc, pis qu'ils nous font la ronde. Quand les patates sont adipeuses et la sauce en canne sirupeuse, quel que soit le goût du fromage, le bonheur sera du voyage, croyez-moi. Oh, c'est bon les patates. Ok tout le monde, on sort son épluche de patates. Diego, on s'épine les couilles. Ok, 1, 2, 3, go. C'est bon les patates. Oh, c'est bon les patates. C'est bon, dedans le béton. Bon comme quand la sanguine sort de son égouine. Ouais, ouais, il casse avec son cochon. Ami, qu'on sait donc pour une fois. De mon cœur, la victoire au grand. Et rendons-nous dans la cuisine. Éplucher des bonnes patates pour une poutine. Oh, c'est bon les patates.
Voici à présent l'histoire étonnante, presque théâtrale, de la longue et sinueuse conquête de la confiance par un fruit aujourd'hui si banal qu'on en oublie totalement qu'il fut jadis craint, suspecté, rejeté, avant de devenir à notre époque l'un des fruits légumes les plus populaires et polyvalents au monde, la tomate.
Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez des tomates.
Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates, nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine A, B, C, c'est bon pour la santé. Les acrobates, les pêcheurs, les diplomates, les boxeurs, délaissent les patates pour ce fruit écarlate. La tomate en salade ou tomate farcie. À l'opéra, en chantant la Tosca, un grand ténor ayant manqué le la, en reçu ce soir-là. Des tas, sa femme en sortant de là le consola. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates, nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine A, B, C, c'est bon pour la santé.
diable un jour, parlant à la radio, fit un discours commençant par ces mots. Supprimons la bomba, supprimons la la la, et remplaçons-la par ce fruit délicat. Mange des tomates, mon amour, mange des tomates nuit et jour. À la pomme qui éclate, préférons les tomates. Les tomates ça fait mal quand ça tombe sur le nez.
Oui mais quand on les mange, c'est bon pour la santé.
Mange des tomates, mon amour.
Nous sommes au cœur du XVIIIe siècle. L'Europe, encore marquée par les croyances anciennes, accueille avec ambivalence cette plante venue d'au-delà des océans. On la contemple, on la cultive comme curiosité, mais on hésite à la manger. Dans certaines régions, l'arrivée de la tomate se déroule dans une atmosphère étrange, mêlée de fascination et de peur. Et au détour de certains récits locaux, un épisode breton daté autour de 1760 surgit comme une petite pièce de théâtre populaire. Une rumeur qui enfle, un conflit entre savoir traditionnel et savoir savant, une communauté inquiète et un geste spectaculaire qui aurait dissipé la peur. Ce récit, bien qu'aucune archive certaine ne le confirme, s'inscrit dans une trame culturelle bien réelle et c'est cette trame que nous allons dérouler ensemble. Lorsque la tomate apparaît en Europe au XVIe siècle, c'est d'abord un objet d'étude et de curiosité. Les conquistadors espagnols ramènent des variétés nouvelles. Les jardiniers italiens admirent la couleur vive des fruits. Les botanistes la décrivent, parfois avec méfiance, dans leurs herbiers. Elle appartient aux solanacées, aux côtés de plantes intrigantes et dangereuses comme la belladone. Cela suffit à éveiller la prudence. À cette époque, la frontière entre toxicité et innocuité est floue. Les apothicaires restent prudents, les paysans encore plus. La tomate est regardée comme une plante exotique aux vertus incertaines. Les botanistes la nomment parfois pomme d'or, parfois pomme d'amour, parfois pomme enragée. Une diversité de noms qui reflète autant d'incertitudes. Et pourtant, en vérité, la tomate ne présente aucun danger. Mais un autre facteur invisible entretient la suspicion, son acidité. Servie dans les assiettes en étain, très prisée des classes aisées, elle favorise la dissolution du plomb contenu dans ses alliages. La conséquence est parfois fatale. Migraines sévères, convulsions, mort soudaine. Sauf que personne à l'époque ne songe à incriminer l'étain. C'est le fruit rouge que l'on accuse. Il n'en faut pas plus pour que la rumeur s'installe. La tomate rend malade. Les aristocrates l'évitent et les paysans en tirent la conclusion intuitive que le danger doit être réel. Dans les campagnes, les mots voyagent vite, mais les explications, elles, voyagent lentement. Au XVIIIe siècle, la tomate reste donc une plante ambiguë. On la cultive parfois pour la beauté de ses fruits, rarement pour la cuisine. Dans le sud de l'Europe, elle commence timidement à s'installer dans les marmites. Mais plus on remonte vers le nord, plus la méfiance grandit. Les ruraux se montrent prudents et rétifs aux nouveautés botaniques. Dans ce climat déjà chargé, il suffit d'une étincelle pour faire naître une peur collective. C'est là qu'intervient le récit breton. Nous sommes vers 1760, dans un coin rural où les nouvelles arrivent comme des échos filtrés du reste de l'Europe. Les habitants connaissent la tomate de vue. On en a vu pousser dans certains jardins curieux, on l'a croisée dans les traités de botanique que les érudits locaux feuillettent avec prudence, mais on raconte aussi qu'elle échauffe le sang, qu'elle perturbe l'humeur, qu'elle porte en elle l'ombre toxique de ses cousines, des solanacées. C'est dans ce terreau mêlant savoir savant et crainte populaire qu'une rumeur commence à circuler. On raconte que la tomate pourrait être dangereuse. Les mots se répandent rapidement, chacun les amplifiant selon sa propre interprétation. Certains disent que la plante provoque des maux de tête fulgurants, d'autres qu'elle rend l'esprit trouble, d'autres encore qu'elle n'est pas faite pour l'homme. Un jour, la tension monte. La rumeur s'installe au marché, là où s'échangent à la fois les légumes, les nouvelles et les peurs. On commence à voir des regards inquiets lorsqu'une tomate apparaît sur un étal. On dit qu'un débat éclate entre les gens du village. Mais qu'est-ce que cette plante exactement? Faut-il la bannir ou simplement s'en méfier? Les maux deviennent plus graves, on évoque des empoisonnements, des malaises, des vertus malignes. On ne sait plus très bien qui a dit quoi, ni qui a commencé, mais la communauté s'échauffe. Face à cette agitation, un apothicaire du village, homme instruit et un peu fier de son savoir, décide d'intervenir. Lui connaît la plante, ne partage pas la peur qui agite la communauté et ne supporte pas de la voir déformée par les rumeurs. Selon les récits populaires, il aurait alors porté l'affaire devant la justice locale pour calmer les esprits et contraindre les fauteurs de peur à cesser leurs affirmations. La salle où se tient l'audience est modeste, mais elle ne tarde pas à se remplir. Les habitants veulent comprendre, ils veulent voir ce que la loi dira de cet étrange fruit venu d'ailleurs. On raconte qu'on dressa même une petite table au centre pour poser les tomates, comme si elles constituaient les pièces à conviction d'un procès hors norme. Le juge, dit-on, écoute longuement. Il interroge, demande des précisions, tente de distinguer les faits des rumeurs. Il comprend vite que le conflit n'est pas vraiment scientifique. Il est émotionnel, social, culturel. Il sent que la rumeur a pris le dessus et que seule une action frappante pourra ramener le calme. Alors, dans un geste qui, selon les récits, marquera durablement les esprits, il demande qu'on lui apporte une tomate bien mûre. La salle retient son souffle. Tout le monde observe. Le magistrat prend le fruit, le tourne entre ses doigts, l'examine comme on examinerait une preuve décisive, puis, sans un mot, il le porte à sa bouche et en croque un large morceau. La pulpe éclate, le jus rouge jaillit, un silence épais remplit l'assemblée. Les regards se fixent sur le visage du juge, comme s'il s'agissait d'un oracle vivant dont dépendait désormais la réputation du fruit. Les secondes passent, longues, tendues. Le magistrat mâche, avale, puis se redresse. Il sourit. La salle éclate alors d'un mélange de rires, de soupirs et d'exclamations soulagées. Selon la tradition orale, il aurait conclu d'une phrase simple mais définitive. Ce n'est point la tomate qui nuit, mais les paroles qui l'accusent. Et la tomate, ainsi, aurait été acquittée. Ce récit breton appartient davantage à la légende qu'à l'histoire documentée, mais son charme réside précisément là. Il reflète parfaitement les mécanismes sociaux qui entourèrent la diffusion de la tomate en Europe. Et ce n'est pas un cas isolé. On retrouve des récits similaires ailleurs, comme celui célèbre mais douteux de Robert Gibbon Johnson aux États-Unis en 1820, mangeant des tomates en public pour prouver leur innocuité. Le motif narratif est constant. Une foule effrayée, un geste symbolique, un moment où la peur bascule dans le rire et où la raison finit par reprendre le dessus. À travers cette histoire, qu'elle soit factuelle ou imagée, on comprend mieux pourquoi la tomate mit si longtemps à s'imposer. Les peurs alimentaires ont la peau dure. Une rumeur suffit à orienter les habitudes pendant des décennies. Les innovations culinaires ne se diffusent jamais simplement. Elles entrent en lutte avec les croyances, les coutumes, les intérêts économiques. La Bretagne, pourtant terre d'échanges maritimes, n'adoptera vraiment la tomate qu'au XIXe siècle, quand les cuisines françaises s'ouvriront à de nouvelles saveurs et que les progrès de l'hygiène et de la science viendront dissiper les dernières craintes. Aujourd'hui, bien sûr, la tomate règne sans partage. On la cultive partout, on la cuisine de mille façons. Elle est devenue symbole de fraîcheur, de santé, de soleil. Mais derrière chaque fruit, il reste comme un parfum discret, l'écho de ses anciennes peurs. L'histoire du jeune Breton croquant une tomate devant une salle entière, qu'elle soit légendaire ou réelle, dit quelque chose de profond sur la façon dont une société apprivoise une nouveauté. Sur la manière dont un simple fruit peut devenir un enjeu de connaissance, de rumeur, de confiance collective. Et peut-être est-ce cela au fond qui rend cette histoire si précieuse. Elle nous rappelle que les aliments qui nous semblent aujourd'hui les plus simples ont parfois traversé de longs couloirs d'incompréhension avant d'arriver dans nos assiettes. La tomate n'a peut-être jamais été jugée officiellement en 1760, mais elle a bel et bien été jugée dans le tribunal de l'opinion. Et elle y a gagné son acquittement, non seulement grâce aux savants, mais grâce à un geste théâtral qui, vrai ou non, symbolise à la perfection le moment où la raison croque dans la peur et en révèle le goût infondé.
C'est un pauvre garçon qui chapeau et le monde, qui est au décoron du côté de Fouquier. Il y en a vaut assez après ses journées d'aller travailler d'un gardien de Saint-Père pour s'en échapper. Il se dit, je vais me marier. A été vite fait, il il est au poids filin. Allez, aux belotes, un petit peu lolotte, mais pour la popote, elle n'y connaît chaud rien.
Il mange des tomates, des tomates, des tomates, et je trouve garçon, il savait bien, qui est tout marqué par le destin. Mais il se disait, pour se faire une raison, j'aurais pu être la saison des melons.
Chalvaux arrivé, il a tout plaqué, il s'en est allé pour trouver le bonheur. J'ai pas Carpentras, qu'un jour il trouva quelque chose qui est au proche, un métier de mineur. D'un chez Pays-là, un réclame des bras, faut dire que je sais pas le boulot qu'il est eu. Du matin au soir, comme un vrai bagnard, il est au seul trimard, il n'a un pouvoir plus.
Il porte des tomates, des tomates, des tomates. Et je pense garçon, il savait bien, qui est au marqué par le destin. Pays ciseaux pour se faire une raison, j'aurais pu être la saison des melons.
Il a vaut ma foi, un pied au filet de voix. Alors c'est pour ça qu'il voulut canter. Il a pris des canchons, juste un accordéon, des micro-sillons, chalfeux au rêver. Il fait au déjà, Paris, l'Olympia, un plage en sultan, Johnny Hallyday. Mais le jour qu'il canta d'un vieux cinéma, alors il y arriva, ce qui de mot arrivait.
Il pleuvait les tomates, les tomates, les tomates. Les chevaux garçons, ils savent bien, qui est au marqué par le destin. Mais ils se disent, pour se faire une raison, j'aurais pu être la saison des melons.
À toutes les misères qu'il a eues sur terre, y a pas pu s'y faire, y a pas résisté. Et chez ta fouquière, tout près de son grand-père, dans le vieux cimetière qu'il est enterré. J'ai par amitié, l'autre jour en asmé, des belles chiottes pincées, il les j'aime autant. Quand t'en es retourné, deux, trois mois après, on est tous restés comme de ronflants.
Il pousse des tomates, des tomates, des tomates. Et je trouve garçon, il savait bien, c'est tout marqué par le destin. Mais un stigeau pour se faire une raison, j'aurais pu être la saison des melons.
Voyageons à présent à travers le temps et les continents pour retracer l'histoire d'un produit devenu universel, familier, parfois réconfortant, souvent gourmand. Nous en consommons en France près de 340 000 tonnes par an. Mais derrière cela, rappelons-nous que, au départ, se cache une aventure humaine longue de plusieurs millénaires, faite de découvertes, de mystères, de conquêtes et d'évolutions culturelles. Un voyage qui commence dans les forêts tropicales d'Amérique centrale, bien avant que les Européens ne foulent ces terres et qui nous mène jusqu'à l'avènement de ce produit que nous connaissons aujourd'hui, le cacao. Pendant longtemps, avant même que les premières pages de notre histoire écrite ne se tournent, la fève de cacao était déjà là, nichée dans les régions humides et chaudes des actuels Mexique, Guatemala et Honduras. Les premières traces d'utilisation humaine remontent à environ 1500 ans avant notre ère. Les Olmecs, cette mystérieuse civilisation considérée comme l'une des toutes premières de Mésoamérique, auraient été les pionniers du cacao. Des résidus retrouvés dans des poteries montrent qu'ils en faisaient probablement une boisson fermentée, peut-être rituelle, peut-être festive, mais assurément importante. Puis viennent les Mayas, entre le 3e et le 9e siècle. Ils développent une culture du cacao à la fois savante et symbolique. Pour eux, le cacao est plus qu'un simple aliment, c'est un don des dieux. Dans leur codex, les divinités façonnent les premiers humains en mélangeant du sang et du cacao. Leur boisson qu'ils appellent Xocoatl ou chocolat est épaisse, amère, parfois relevée de piment, de vanille ou de maïs. Elle est servie lors des rituels, offerte aux divinités, mais aussi partagée par les élites lors des cérémonies. Sa valeur dépasse largement la cuisine. Les fèves deviennent même une monnaie. Avec quelques dizaines de fèves, on peut acheter un lapin, avec 100, un esclave. Le cacao circule, s'échange, s'honore. Lorsque l'Empire aztèque s'étend, plusieurs siècles plus tard, il adopte à son tour le cacao. Les régions chaudes où il pousse naturellement deviennent tributaires. Le peuple doit envoyer à la capitale des sacs de fèves destinés aux nobles, aux guerriers et surtout à l'empereur Moctezuma II. Selon certains récits, celui-ci en consommait des dizaines de coupes par jour. Là encore, il s'agissait d'une boisson aristocratique, amère, dense, énergisante. On la fouette longuement pour créer une mousse épaisse, très appréciée. Mais malgré son importance, le cacao reste entouré d'une aura de mystère presque sacrée. Et puis l'histoire prend un tournant, cette fois mondial, avec l'arrivée des Européens. En 1502, lors de son 4e voyage, Christophe Colomb aperçoit pour la première fois les fameuses fèves. Il intercepte un canoë de commerce et remarque que les indigènes tiennent beaucoup à ces petits objets bruns, au point de se pencher pour les ramasser lorsqu'ils tombent au sol. Colomb ne comprend pas l'intérêt de ce produit, et le cacao passe inaperçu dans la cargaison qu'il rapporte en Espagne. La découverte aurait pu s'arrêter là, simple anecdote perdue parmi les curiosités du Nouveau Monde. Mais en 1520, le conquistador Hernán Cortés rencontre l'empereur aztèque et découvre la boisson au chocolat. Cette fois, il perçoit immédiatement son importance. C'est une boisson des élites, un symbole de richesse, un tonique apprécié des guerriers. Il en note les priorités énergisantes et comprend que ces fèves ont une valeur économique considérable. Il décide d'en envoyer en Espagne, accompagné d'ustensiles et d'explications sur leur usage. Lorsque le cacao arrive enfin à la cour de Charles Quint, en 1528, sa réception est bien différente de celle du voyage de Colomb. Les Espagnols ne tardent pas à adapter la boisson. Eux, qui disposent déjà du sucre grâce aux plantations coloniales, adoucissent la préparation. Ils y ajoutent cannelle, miel, anis, parfois même de la fleur d'oranger. Peu à peu, le breuvage amer des Aztèques devient une boisson sucrée, douce et parfumée, adaptée aux goûts européens. Durant presque un siècle, l'Espagne garde le secret du cacao. On en consomme dans les cercles aristocratiques, parfois même dans les couvents où les religieuses deviennent expertes dans l'art de préparer le chocolat chaud. Il est utilisé à la fois comme boisson de plaisir et comme remède. On lui prête des vertus digestives, tonifiantes, thérapeutiques. Certains médecins le recommandent pour lutter contre la fatigue, d'autres pour apaiser les humeurs mélancoliques. Mais ce succès naissant n'est pas sans susciter des inquiétudes et des débats. En arrivant en Europe, le cacao se heurte à un climat intellectuel marqué par la méfiance envers les produits exotiques. Beaucoup l'associent d'abord à la sauvagerie supposée du Nouveau Monde et aux rituels païens des peuples amérindiens. La couleur sombre du breuvage, son amertume naturelle, l'effet stimulant qu'on lui attribue, tout cela nourrit la suspicion. Les médecins s'interrogent, est-ce un aliment dangereux? Peut-il exciter le sang? Faut-il le proscrire aux femmes trop sensibles, dit-on à l'époque, à ses prétendues vertus excitantes?
Mais voyez plutôt ceci.
Qu'est-ce?
C'est du café, votre éminence. On le moue, on y ajoute de l'eau chaude, c'est un excitant si on en boit trop.
Et ça?
Ça, c'est du chocolat, mon éminence. Un vrai délice.
Cela se boit avec du lait, chaud ou froid. Le seul petit problème, veillez à ne pas en boire trop, cela fait grossir.
La poudre rouge.
C'est la poudre du diable, mon général.
C'est tiré d'une feuille.
Ça se fait en rail. Ça s'aspire par le nez. Et après, on fuse, mais grave. T'es brillant, loquace, un tontine de casse-couille. Tu peux descendre tous les liquides que tu veux, t'es jamais de travers. T'as un trou dans le palais. Tu sens plus tes crochets. C'est le diable en poudre, mon général. Moi, ça fait 42 jours que j'ai pas fermé l'œil. Dont 3 semaines de trick.
3 semaines de trick?
C'est le produit en question. Si on compte un pif par habitant. Il la voit la cagnotte, mon éminence.
C'est bon pour ma flottille!
Tu donneras le café à la reine et le chocolat au roi. Nous, on va se garder la poudre du diable. Un petit trait.
Ah non, je ne suis pas un cobaye.
Dis donc, t'es pas novice. Fais gaffe, je me sens en jambes sous ma jupe. Il y a deux traits. Tu prends le premier et t'actives. Le reste, on se le gardera pour faire d'une fatigue un divertissement. Trois semaines de trick.
La religion s'en mêle. Au XVIIe siècle, un débat inattendu surgit. Boire du chocolat rompt-il le jeûne? Les théologiens s'opposent. Certains affirment que oui, puisqu'il nourrit. D'autres, notamment les jésuites, argumentent que, comme il est liquide, il peut être toléré. Cette querelle prend une ampleur considérable au point d'être discutée dans les plus hautes sphères de l'Église. Malgré ces suspicions, la diffusion du cacao se poursuit. Les mariages entre familles royales espagnoles et européennes vont jouer un rôle essentiel dans cette expansion. Lorsque Anne d'Autriche épouse Louis XIII en 1615, elle apporte avec elle la tradition du chocolat chaud à la française. La cour de France l'adopte rapidement. Sous Louis XIV, il devient un symbole de raffinement et de bon goût. Madame de Sévigné, dans ses célèbres lettres, en parle tantôt avec enthousiasme, tantôt avec inquiétude, mais toujours comme d'un produit prestigieux, presque incontournable. L'Italie, les Pays-Bas et l'Allemagne suivent le mouvement. Dans les grandes villes européennes, les apothicaires vendent du chocolat comme médicament. Dès la fin du XVIIe siècle, les cafés, ces nouveaux lieux de sociabilité où on se retrouve pour discuter, débattre, philosopher, proposent à leurs clients thé, café et chocolat chaud. Le cacao devient alors une boisson des intellectuels, des artistes, des curieux du monde. Il est synonyme d'ouverture d'esprit et de modernité. Puis vient une révolution silencieuse, celle de l'industrialisation. Au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, les techniques évoluent. En 1828, le néerlandais Conrad van Houten met au point un procédé permettant de séparer le beurre de cacao de la poudre. Le chocolat devient plus facile à travailler, moins gras, plus accessible. En 1847, la première tablette de chocolat solide voit le jour en Angleterre. Quelques décennies plus tard, Daniel Peter associe le cacao au lait en utilisant la poudre le lait inventée par Henri Nestlé. Le chocolat au lait est né. Le monde entre dans une nouvelle ère, celle du chocolat de masse au goût doux, fondant, devenu un plaisir quotidien. De produit rituel réservé aux élites méso-américaines, le cacao est devenu en quelques siècles un élément universel de notre alimentation, un symbole gourmand partagé par des millions de personnes à travers le monde. Le cacao, bien plus qu'un simple ingrédient, est le témoin privilégié de notre évolution culturelle. Il accompagne les rites des anciennes civilisations, traverse les océans, suscite débats et passions, puis s'intègre aux traditions culinaires européennes avant d'entrer dans l'ère industrielle. À chaque étape de son histoire, il nous parle d'échanges, de découvertes, de rencontres parfois pacifiques, parfois violentes, mais toujours profondément humaines. Aujourd'hui, lorsque nous dégustons un carré de chocolat, nous savourons non seulement une douceur, mais aussi la mémoire d'un long parcours historique. Une histoire d'arômes, de voyages et de transformations. Une histoire qui nous rappelle que derrière les plaisirs les plus simples se cachent souvent les plus grandes aventures.
Argenté. manger de chocolat.
Je suis fou du chocolat.
Thank you.
fait des faits. Chronique historique, hétéroclite et tout azimique.